Alors, dimanche dernier, on a vécu un temps assez incroyable quand même. C'était le souffle apostolique avec cet apôtre extraordinaire, Jean-Marc. Et puis, une étape importante, comme il nous l'a dit, de croissance vers ce que c'est qu'un centre apostolique, vers l'ordre de Dieu. Et c'était un grand moment. Vous êtes d'accord, hein? Un grand moment. Et puis, il a rappelé les trois missions de l'Église. Alors, je rappelle, trois missions. Louer Dieu, prendre soin des membres, servir le monde. C'était les trois missions. Et puis, on rappelle la vision et la mission de Josué. Une famille qui il y a des relations avec ça, bien sûr. Une famille qui célèbre la présence de Dieu, qui manifeste son amour et qui incarne son royaume. Alors, grâce à David, j'ai retrouvé, c'est pas qu'il m'a envoyé, un message. Alors, je sais pas si Luc, tu te rappelles, tu as fait le 2 août 2020 un message sur Jésus, souverain sacrificateur et apôtre. Et tu parlais déjà de notre appel de devenir une église apostolique. Tu en parlais déjà. Tu as parlé de Jésus, l'apôtre. Et puis, tu as parlé dans ce message d'un double mouvement de venir dans la présence de Dieu, dans sa communion, et puis d'aller vers le monde, la société, remplie de cette présence. Tu avais parlé de la respiration. On inspire la présence de Dieu, et puis après, on va souffler cette présence partout où le Seigneur nous envoie. Et c'est, je pense à ce chant, « Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur, le Père. Hein. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. » On vient dans sa présence, on va vers le monde, vers là où on est placé, chacun de nous. Et la semaine dernière, c'était vraiment ce souffle apostolique hein, qui nous envoie vers la société, vers le monde. Et puis, suite à ça, j'avais vraiment sur le cœur de cet autre mouvement, venir dans la présence de Dieu. Alors, venir dans la présence de Dieu, individuellement, corporativement, comment ? La réponse logique, basique, immédiate, louange, adoration. Ça, c'est un énorme sujet. Mais bien sûr, la danse et tout ce qui va avec, hein. Louange, adoration, un énorme sujet, donc trop bien ce sujet. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas trop abordé ça, mais il y a des profondeurs, c'est immense, c'est un sujet absolument immense. Sauf que, j'ai été brutalement arrêtée. Brum. Et on va prendre le psaume 100, versets 4 et 5. Alors, j'ai marqué, et c'est un psaume, d'ailleurs le titre c'est psaume de reconnaissance, après on parle de la joie. Et puis, au verset 4 et 5, « Entrez dans ses portes. » Ah oui, non, mais là, ça ne va pas la traduction. pas du tout. Vous allez voir pourquoi, parce que j'ai mis l'hébreu. Hein. L'hébreu, il ne dit pas ça. « Entrez dans ses portes avec reconnaissance ou avec des actions de grâce, dans ses parvis, avec des louanges. » Voilà. Non, c'est pas. Bon, entrez dans ses portes avec des actions de grâce ou avec reconnaissance, dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté demeura toujours, sa fidélité de génération en génération. Et là, c'était vraiment, stop, tu restes là. Et tu mets en marche la foureuse. La foureuse. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, vous avez un verset, et puis le Seigneur met son gros éclairage sur le verset, et vous commencez à creuser. On descend en profondeur dans le verset. Donc, entrer dans ses portes avec reconnaissance. Et peut-être ultérieurement, dans un autre message, il y aura dans ses parvis avec des louanges, vous voyez. Mais ce matin, entrer dans ses portes, les portes de la maison de Dieu, les portes de sa présence, avec des actions de grâce et de la reconnaissance. Alors, on y va, on met en place la foreuse. Et d'ailleurs, je pensais que c'était un sujet tout mignon, tout gentil, tout facile, vous voyez. Louange, adoration, reconnaissance, ça va ensemble tout ça. Ah bah dites donc, je savais pas que... On confronte, je vous dis pas ce qu'on confronte, hein. J'ai senti que ça confrontait là-dedans. Exactement ce que disait Manu là, évangéliser les profondeurs générationnelles, culturelles. Alors ça touche les Français, les Américains ne sont pas trop concernés, mais les Français, oui. Ou les Italiens. Donc ça, oui, tout le monde, mais en tout cas les Français, il y a une dose supplémentaire de confrontation. Alors vraiment juste, Seigneur, ce matin, je te prie, c'est ta parole qui fait cette œuvre de chariot aigu, tout neuf, garni de pointes, qui écrase, qui broie les montagnes, tout ce qui s'oppose à la connaissance de qui tu es, et qui renverse tout, qui aplanit, et voilà, tu fais ton œuvre. Et c'est pas seulement un chariot aigu, tout neuf, c'est quelque chose qui brise les duretés intérieures de notre âme personnelle, collective, nationale, culturelle. Tu brises ça. Et merci Seigneur de tout ce que tu fais ce matin. Au nom de Jésus. Voilà, c'est posé. Alors, donc, la reconnaissance. Ah, la reconnaissance. Alors, je vais commencer par un petit... Vous savez, j'aime bien les accessoires. Un petit accessoire. Donc, voilà. C'est pas un chrétien d'ici. Hein. C'est un chrétien, je dirais, français. Chrétien français. Hein. Culturellement normal. Vous voyez ce que je veux dire? Un chrétien culturellement normal. Ça donne quoi, le chrétien culturellement normal? Ah, en plus. Non, il y a un jugement, à mon avis, sur cette paire de lunettes. Il y a un jugement. Alors, on y va. Je vais mettre sous verre en place. Franchement, il ne veut pas. Hein. Bon, hop. Non, c'est vrai, c'est un jugement. En plus, je ne m'en sers plus, là. Plus du tout, du tout. Hein. Bon, bref. On va le faire comment? Donc, voilà. Bon, le chrétien normal, il va dire quoi? franchement, 6 ans, en mars 2026, ça fait 6 ans qu'on n'a plus nos locaux. Alors on est dans ce réfectoire, franchement on est assez là-dedans. Hein. Pour les bannières, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de hauteur, il n'y a rien. Hein, franchement les bannières... Hein, ouh là là, en plus on manque d'éborgner la personne qui est au premier rang, hein. Dur quoi. Pour la danse, il n'y a pas de place non plus. Juste là, enfin c'est. Bon, la salle d'avant, c'était quand même autre chose, quoi. En plus, c'est cher, hein, 100 euros. 100 euros par dimanche. Et la comptable, elle oublie par un POM. À la fin du mois, paf, la facture, elle tombe. Puis vous n'avez pas l'air trop réveillé en plus. Moi certainement pas, mais alors vous, pas terrible non plus, hein. Ah, la louange commence. Tu aimes ma gloire, tu relèves ma tête. Voilà. Dualine totale. Vous avez vu? Dualine. Et le lundi, ah, ça y est. Les vacances sont finies, il faut s'y remettre. Oh là là, et le boulot et tout ça. Et ça recommence. Bon, vous n'êtes pas du tout concernés. Pas du tout, du tout, du tout. Les enfants sont pénibles, la voiture ne marche pas. La facture d'énergie de l'hiver, elle est tombée. Ah! Bon, vous n'êtes pas concernés. Tout va bien. Alors, je change de lunettes, c'est nettement mieux. C'est autre chose. Pam. Des lunettes de lumière. Oh là 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 là. Mais ce lieu est rempli de gloire. Les anges sont là. Vous les voyez? Il y en a plein, 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 plein. Forcément, avec la louange, tout ça. Plein d'anges. Le ciel est ouvert. Regardez plein le plafond. Le ciel est vraiment, vraiment, vraiment ouvert au-dessus. Hein. Et puis c'est la gloire de Dieu, le printemps, les pousses, tout ça, le nouveau quoi, le nouveau de Dieu, il fait des choses nouvelles, c'est magnifique. Vous êtes beau, vous êtes rempli de la gloire de Dieu, c'est trop bien, je vous aime, extraordinaire. Ça. Oh, merci Seigneur pour cette journée formidable, pour ce dimanche, pour ce réfectoire rempli de ta gloire, pour ce qu'on bénit l'école et le G, le bercail avec, c'est un lieu stratégique. Merci Seigneur de la placer là. Voilà. Bon, vous préférez quelle version franchement? Donc, la reconnaissance. Alors, la reconnaissance, elle est liée, on l'a vu, la bonté de Dieu. Car l'Éternel est bon. Sa bonté demeura toujours, sa fidélité, de génération en génération. Alors, la bonté de Dieu, en français, c'est problématique ce mot, parce qu'on a eu pendant des siècles de religiosité le bon Dieu, vous savez, le bon Dieu. La bonté de Dieu, c'est un de ses attributs éternels. Il y a plein d'attributs, il y a même un livre qui parle de tous les attributs, s'émerveiller de tous les attributs de Dieu. C'est un parmi plein. Hein. Je suis convaincue qu'aucun de nous ne connaît tous les attributs de Dieu dans sa profondeur. Hein. Donc la bonté de Dieu, je vais vous lire un extrait du livre de Tozer, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle « La connaissance de l'Éternel » à travers ses attributs. Hein. Ça nous aide en français, ça nous aide à mettre des mots, parce que bonté, c'est quoi la bonté? Alors, je vous lis la définition d'après ce livre. La bonté de Dieu est ce qui le dispose à être aimable, cordial, bienveillant, plein de bonne volonté envers les hommes. Il est sensible et d'emblée sympathique. Ça, c'est étonnant, un Dieu sympathique, ça. Sympathique. Son attitude inaltérable envers tous les êtres moraux est ouverte, franche, amical. De nature, il est enclin à accorder des bénédictions. Il tire un plaisir sain, S-A-I-N-T, du bonheur de son peuple. Et un peu plus loin, toute la perspective de l'humanité pourrait être modifiée si on pouvait tous croire, l'Église de France et France est tout court, hein, si on pouvait tous croire que nous vivons sous un ciel favorable, évidemment, en vertu du sacrifice de Jésus, hein, évidemment. On vit tous sous un ciel favorable et que le Dieu des cieux, bien qu'exalté de puissance, de majesté, souhaite ardemment être notre ami. Ça, c'est la vérité de la bonté de Dieu. Et donc, c'est quoi ce mot « reconnaissance » qui est dans le psaume 100 ? Alors, en fait, en hébreu, c'est un mot qui est très, très, très utilisé par tous les Israéliens actuellement. C'est « toda ». Toda et toda rabba, ça veut dire merci beaucoup. Donc tous les petits juifs, tous les petits israéliens, ils apprennent comment on dit, tu dis merci à maman, tu dis merci à papa, toda rabba. Et donc c'est merci. Mais alors ce qui est très très intéressant, c'est comment ce mot merci, toda, apparaît dans la Bible. C'est toujours intéressant, les premières occurrences. Comment ça apparaît ce mot? Et là j'ai trouvé alors là, des merveilles, des trésors. En fait, ça apparaît un livre où on ne s'attendrait pas à le voir. Ça apparaît dans Lévitique. Et Lévitique, vous savez bien, ça parle de tous les sacrifices. Alors Lévitique, ça a l'air un petit peu rébarbatif. C'est vrai qu'il faut plutôt céder d'un commentaire. Hein. Et il y a des excellents commentaires. Mais ça parle de toutes les facettes du sacrifice de Jésus. Tout parle de Jésus, mais sous toutes ses facettes. Et souvent, on a une vision très, très réductrice du sacrifice de Jésus à la croix. C'est très, très, c'est immense. Enfin, il faudrait, c'est encore un monde, Lévitique, hein. Et donc, c'est en relation avec les sacrifices. Sacrifices, les holocaustes, sacrifices pour le péché, sacrifices pour la culpabilité. Il y a plein, plein de sacrifices. Et puis, alors, Lévitique 7 arrive ce fameux toda, sacrifice de reconnaissance. Mais on le voit dans Lévitique 7. On peut peut-être lire Lévitique 7, 12, mais je me méfie des traductions qui vont être affichées. oui. Alors oui, ben là c'est bien, là il y a le mot reconnaissance. Hein. Si quelqu'un offre ce sacrifice par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice de reconnaissance des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes arrosées d'huile et de la fleur de farine faite en gâteau pétris à l'huile. Donc on a bien un sacrifice de reconnaissance, mais ce sacrifice de reconnaissance, il est étroitement lié à un autre sacrifice qu'on voit apparaître dans Lévitique 3, mais aussi 7. Un autre sacrifice, je ne sais pas si on le voit apparaître, verset 13, il dit quoi le verset 13 Lévitique 7, verset 13. Oui, 7, verset 2. Alors, voilà. Vous voyez, le sacrifice de reconnaissance est associé à un autre sacrifice qui s'appelle le sacrifice de communion. Les deux vont ensemble. Et communion, en hébreu, c'est shelem. Alors shelem, ça ressemble beaucoup à shalom, hein. Ça parle de la paix, de la communion, et c'est dans beaucoup de traductions, c'est traduit aussi par prospérité. Prospérité, ça parle d'abondance aussi. Donc reconnaissance, communion, paix, abondance, communion et prospérité. Donc en fait, on voit que dans Lévitique, c'est le sacrifice de Jésus à la croix qui permet de répondre à ce désir ardent du Père de communion avec l'humanité, restauration de la communion avec le Père. Donc, reconnaissance et communion, ça va ensemble. Reconnaissance, communion, accès au Père et abondance aussi. Et abondance. Donc là, c'est quelque chose d'assez assez fort. Et là, on va passer à un autre passage. Donc, les 10 lépreux. Luc 17, versets 11 à 19. Si on peut voir ce passage. Luc 17, versets 11 à 19. Là, vous allez voir. Les 10 lépreux. Voilà. Alors, Jésus passe en Samarie, Galilée-Samarie, et puis, qu'est-ce qui se passe? Il entre dans un village, on peut continuer le passage, 10 lépreux viennent à sa rencontre, se tenaient à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » On se continue. Les voyants, il leur dit pas qu'ils sont guéris, hein, « Allez vous montrer au sacrificateur, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, un sur les 10, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix, et Jésus et c'était un Samaritain, il tomba face contre terre au pied de Jésus et rendit grâce ou dit merci. C'était un Samaritain. Et Jésus prit la parole. Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et dernier verset, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, on a une question de reconnaissance et puis aussi d'ingratitude. Alors, nous, quand on lit ça, on dit, franchement, ils exagèrent. Hein, franchement, les 9 lépreux, ils exagèrent. Enfin, c'est... Nous, on n'aurait pas fait ça. Hein. Non, pas du tout. Alors, il faut quand même expliquer le contexte. Il y en a peut-être qui ont vu Bénur, hein, parmi vous. Bénur, vous savez. Les lépreux, ils étaient complètement coupés de la société. C'est-à-dire, ils ne voyaient plus leur famille, ils ne voyaient plus leur village. Ils étaient à part, ils ne pouvaient se retrouver qu'entre eux, finalement. Donc imaginez, ces lépreux, ils sont en chemin, donc on ne sait pas à quelle distance de Jésus, hein, ils sont en chemin. Et on ne sait pas combien de kilomètres de Jésus ils sont, ils découvrent qu'ils sont guéris. Et ils savent que, l'étape prochaine, c'est se faire voir au sacrificateur. Et après, si le sacrificateur atteste qu'ils sont guéris, ils peuvent retrouver leur famille, leur village, leur communauté, leur vie sociale, c'est extraordinaire. Donc ils se propulsent dans le nouveau de ce qu'ils vont vivre, mais à fond. Ils sont dedans, je vais revoir ma famille, je vais revoir mes enfants, mes parents, enfin c'est extraordinaire quoi. Ils sont dans cette dynamique-là, parce que, attendez, revenir ça veut dire perdre du temps, et puis Jésus peut-être qu'il est loin, des kilomètres derrière, hein. Il faut payer un prix hein, pour revenir en arrière, et ce qu'a fait 1 sur 10, mais est-ce qu'on comprend? Ben oui, il fallait payer le prix quand même, hein, avec toute cette, tous les attendaient devant, ils avaient peut-être des années qu'ils attendaient ça, vous voyez. Eh ben, on les comprend un peu mieux quand même, hein. Vous voyez pas? Qu'on les attend, on les comprend mieux, quoi. Et puis, nous, bien sûr, on n'est jamais, jamais coupable d'ingratitude, mais alors, jamais, vraiment jamais. Alors, quand les 9 lépreux, quand même, ils exagèrent. Petite question. Dis donc, avec ton mari, vous avez reçu un cadeau, là, de la mairie, en décembre, là. Ah ben oui, on n'était pas là, on a trouvé le cadeau, il était rudement bien, ce cadeau, il y avait plein de choses. Vous avez tout consommé? Ah ben oui, c'est trop, trop bien. T'as dit merci? Non. Non, on n'a pas dit merci. Prise en flagrant d'ingratitude. Donc, ok. D'accord, Seigneur. Ça, c'est justement avec l'histoire des lépreux, difficile de continuer comme ça. Mais vous savez que il faut être intentionnel quand même pour dire merci. Hein. C'est pas inné du tout. C'est comme les enfants, c'est pas inné. Hein. Pauline, apprendre à dire merci aux petits. Hein. Tu dis merci. Tu dis merci. Donc, j'ai fait ce qu'il faut. Bien comme il faut, pas à cause du message, hein, mais vraiment parce que j'étais motivée. J'ai vraiment pris une belle carte, merci, et puis écrit une carte, et puis acheté des chocolats. Et je suis allée, juste avant-hier, en fait, de dire merci au service de la mairie. Ah, ils étaient touchés, hein. Bien sûr qu'ils étaient touchés. Je pense que, très touchés. Mais j'ai fait tout mon cœur. J'ai dit, oui. Mais c'est là que je vois que ça demande quelque chose, quand même. De dire merci. Il faut être intentionnel, hein. Et on comprend mieux pourquoi le Seigneur dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce qu'on oublie très, très, très vite. Hein. C'est fou, comment on oublie vite? S'il n'y avait pas eu ce petit rappel, il s'est passé quoi en décembre avec la mairie? Compliqué. Complètement, on oublie très, très vite. L'histoire vous rappelez les disciples, hein. Oh là là, comment on va faire? On n'a pas de pain. Mais vous rappelez pas l'histoire de la multiplication, là? Ah bah non, comment on va faire avec le pain? Il manque du pain. On est pareil, hein. Non, ça va? Non, vous ne vous sentez pas accusé, là, c'est la vérité vraie, hein. Oui. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit, on va être intentionnel. Dire merci à Dieu intentionnellement. Donc, j'aime bien écrire, donc j'ai commencé action de grâce. Et puis, j'ai commencé à noter régulièrement pourquoi je voulais dire merci à Dieu, pour que je me rappelle, parce qu'on est tellement vite. Là, d'ailleurs, j'ai regardé mon cahier, ça fait, depuis début janvier, je ne l'ai pas fait. Et pourtant, il s'en est passé des bonnes choses depuis, vous voyez. Et même chaque fois, c'est tout le temps en fait. Mais on ne voit pas, et puis ou alors pire, on râle quoi. Et bon, donc oui, il faut vraiment vouloir et s'arrêter et dire Seigneur, pourquoi je voudrais te dire merci. Et puis là, on se rend compte qu'il y a plein de choses, vous voyez. Mais il faut s'arrêter, il faut vouloir, voilà. Et alors après, je vais vous parler de deux personnages. Alors, il y a Werner qui en connaît bien, hein, au moins, parce que c'est notre parcours du père avec Pierre Kanga. Alors, le fils aîné. Non, 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 nous, c'est pas, on n'est pas concernés. Non, 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 on n'est pas concernés. Fils aîné, ça nous. Non, non, c'est pas nous. Pierre Canguel explique que l'homme charnel en nous, il a les deux, hein, le fils prodigue et le fils aîné. Donc, le fils aîné, qu'est-ce qu'il, comment il, sa caractéristique, c'est qu'il est dans le manque. Il voit tout ce qui lui manque. Exactement mon petit sketch de début, vous voyez, je voyais tout ce qui n'allait pas. Il voit que ça. Il voit le manque. Donc, zéro gratitude. Hein. Ça fait des années qu'il vit à côté du père. Zéro gratitude. Donc, vous avez vu le verset, zéro communion. Donc, zéro abondance. Voilà, c'est basique. C'est des lois spirituelles. Hein. Vous êtes dans la reconnaissance, ça vous ouvre à la porte vers la communion. Et après, c'est le partage avec les ressources du père. Donc, revendication, très français ça, revendication. Parce que les Français, franchement, on a un des plus beaux pays du monde. Il y a même un documentaire qui a titré « Le plus beau pays du monde ». En plus, c'est... Oh, hein, les Américains, vous êtes d'accord. Hein. Donc, un des plus beaux pays du monde. Une, pas la meilleure, la chinoise, elle est top. Hein. Une des meilleures cuisines du monde. Une. Des meilleures cuisines du monde. La meilleure protection sociale au monde. Oui, 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 ça, on peut dire oui. Même encore maintenant. Mais on n'arrête pas de râler. Alors, donc, le fils aîné. Y compris dans l'église. Revendication, reproche, frustration, manque, absence totale de reconnaissance, absence de communion. Donc, il ne connaît pas le Père. Et il ne connaît pas sa bonté. Voilà. Alors, il y a un autre phénomène. C'est dans la parabole des talents, vous savez. Alors, lui, le gars, c'est encore un autre niveau. Hein. Je savais que tu es un homme dur. Matthieu 25, verset 24-25. Je savais. Ça, c'est l'arrogance. C'est à la française. Hein. Je savais. Il méconnaît totalement le cœur du Père. Après, qu'est-ce qui se passe? Il a peur. J'ai caché mon talent, mais j'ai eu peur. Ça vous rappelle un petit peu Adam, là. Où te caches-tu, Adam? Enfin, où te caches-tu? Vous remarquez que Dieu les cherche. Hein. Comme a dit le frère allemand au séminaire, hein, vos bisdoux. Où es-tu? La question du père, il les cherche, il leur dit, où es-tu? Voulant la relation, avant même de leur dire, mais t'as fait quoi comme bêtise, quoi? Où es-tu? Et donc, l'homme de la parabole, il cache son talent. Et puis, évidemment, il y a zéro multiplication, zéro abondance, triple zéro, puisqu'il est ancré dans sa totale présomption que Dieu est comme ça. Et il est livré, en fait, à son propre cœur, à ses pensées. Je savais que tu es un homme dur. Ça rappelle exactement Romains 1, verset 21. Ayant connu Dieu à travers ses œuvres et tout, ils n'ont point glorifié, ils ne lui ont point rendu grâce, ils n'ont pas remercié, pas du tout remercié. Ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, 28, ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, et le jugement tombe, Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Voilà. Bon, le fils aîné aussi, il est dans la totale présomption, hein. Jamais je ne désobéis à tes ordres, tu parles. Un sentiment de manque, t'as pas de chevreau, la frustration, la déception. Donc, il est absolument coupé. Et alors, ce qui est extraordinaire, bon, la parabole des talents, on voit que le Père, enfin, Dieu le laisse complètement à son... Ouais, ok. Il est même très, très sévère, hein, avec l'homme de la parabole. Mais dans Luc 15, ce qui est extraordinaire, c'est le Père. Il sort, vous imaginez, le Père, il sort de cette maison du Père pleine de joie, d'abondance, de fêtes et de bonne nourriture, il sort et l'invite à entrer dans la maison du Père. Et c'est ce que fait le Père en envoyant Jésus, c'est ce que fait l'Esprit Saint, il attire les hommes à Dieu par des cordages d'amour, il prépare l'Église aussi à montrer le Père, à accueillir tous ceux qu'il va nous envoyer. Donc, le Seigneur veut nous emmener beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans cette connaissance intime et relationnelle du Père. Et le verset 31, je peux vous dire qu'il force, ça fait des mois maintenant que ça, je l'ai en foreuse ce verset, tellement ça confond des tas de choses là-dedans. Je ne sais pas si ça te fait pas ça, Werner, ça confond. Verset 31, Luc 15, verset 31. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est mien est tien. Et en fait, quand on médite sur ce verset, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose de fort dans ce verset, d'énorme dans ce verset, c'est la délicatesse du Père. Le Père, il est extraordinaire quand même. Il n'y a pas un reproche. pas un reproche. Il y a une douceur de réponse. Il y a le père qui sort, qui va au-devant. Il lui dit pas, mais en fait, tu vois pas que... Il n'y a aucun reproche. Et en fait, il exprime juste de manière très délicate son désir de communion avec son fils aîné. Mais il dit pas, enfin, tu vois pas que je suis toujours avec toi. Non, il le dit autrement. Et c'est, je trouve que c'est très, très délicat et très... Ouais, vraiment délicat. Moi, je désire que tu demeures dans ma bonté, dans mon amour. Moi, je suis présent. Est-ce que toi, tu es présent? Parce qu'en fait, le Seigneur, on sait, il est présent tout le temps. Mais c'est nous qui ne sommes pas présents. On est perdus dans je ne sais pas quoi, dans nos pensées, dans nos trucs. Donc, mon enfant, tu es toujours avec moi. Emmanuel, Dieu avec nous, tu es toujours avec moi. Donc, communion. Et derrière, abondance. C'est une loi. Reconnaissance, communion, abondance. Tu es toujours avec moi, tout ce qui est mien est tien. S'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de communion, et bien sûr, on est en manque. Pas de chevaux, pas de ci, pas de ça, etc. etc. Ben oui, c'est des lois spirituelles. Hein. Les lois spirituelles, ben, faut obéir, quoi. Et donc, la bonté de Dieu, elle est là. Psaume 36, versets 8 à 10. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ? À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. » Et vous avez vu le début, hein ? À l'ombre de tes ailes. C'est psaume 91, verset 1. Demeurez à l'abri du Très-Haut. À l'ombre du Shaddai. Shaddai, c'est le nourricier. Ça parle d'abondance. Mais notre part, c'est demeurer à l'abri du Très-Haut. Tu les abreuves au torrent de tes délices. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, je parlais des lunettes lumineuses, vous savez, par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors, demeurer dans la bonté de Dieu, demeurer dans l'amour de Dieu, là je vais appeler mon actrice. ça vient pas de moi, ça, c'est Pierre Kranga qui nous a montré ça, ça m'a tellement... C'est pour les visuels, hein, les visuels, ils ont besoin de voir des trucs concrets. Donc, on a le niveau... Basique, ça, c'est là. Basique, ça veut dire on croit en Dieu. On croit que Dieu existe. C'est basique. Bon, les démons le croient aussi, hein. Pas beaucoup de... Voilà. Les démons aussi croient que Dieu existe. Donc, c'est pas terrible. Vous voyez, ce niveau-là, il est pas terrible. Après, donc, Elisabeth va monter sur la chaise. Elle croit dans la bonté de Dieu. Alors, ça, c'est autre chose. Elle est sur un lieu élevé. Elle croit dans la bonté de Dieu. C'est beau, hein. Sur les lieux élevés, voilà. C'est magnifique. Elle est assise avec Christ dans les lieux élevés, voilà, transportée dans le royaume du fils de son bien-aimé, voilà, formidable, formidable. Alors on va dire, ça baigne, c'est impeccable, sauf que, vous savez ce qui va se passer ? Ah ah ! Eh bien, il y a des petits grisaillons, des petits nains, qui vont venir secouer. Bah, je ne peux pas lâcher le micro et le secouer en même temps. Mais il y a des tas de circonstances, quelqu'un veut secouer la chaise, mais délicatement pour ne pas faire tomber Elisabeth. Voilà. Donc, prends soin de ma fille quand même. Hein. Donc, il y a des circonstances pénibles, délicates, difficiles, qui vont vouloir secouer et la faire tomber de son lieu élevé. Ça vous parle, ça ? Les galères, les problèmes, les trucs, les machins, plus les pensées de pas possible. Et c'est secouer, secouer, secouer. Mais Elisabeth, elle s'agrippe. Elle demeure dans la bonté de Dieu, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Elle tient ferme, elle s'agrippe à la parole, elle résiste. Parce que c'est un combat de demeurer dans la bonté, vous savez ? C'est un combat. Il y a plein de choses qui voudraient nous faire tomber de là. Vous voyez ? Donc elle est bien enracinée. Là, il faut voir, il y a des racines. Brrrm, ça descend en profondeur. Et elle est enracinée. Voilà. Les ténèbres sont vaincues. Elle a vaincu avec la vérité de la parole. Elle a vaincu et elle a pris, et moi je dirais même, elle a pris du grade. Hein. Merci beaucoup Elisabeth, tu peux penser à Joseph. Hein. Il a résisté, il a demeuré dans la promesse, dans les bontés de Dieu. Comment ? Oui, c'est vrai. Donc, elle a pris du grade en plus, de l'autorité, parce que plus on tient ferme, vous voyez, il y a quelque chose qui s'enracine, qui s'incarne, et on prend de l'autorité aussi. Voilà, donc ça franchement, là, regardez Joseph, je reprends dans le message de Joseph, hein. Il a tenu ferme dans la foi, dans la bonté de Dieu, dans la foi, dans les promesses de Dieu, et puis il a tenu ferme, et puis vous avez vu là derrière, après l'épisode Manassé, d'oublier les galères, Ephraïm, abondance, multiplication. Donc, oui, les prières du verset 12, toujours du psaume 36, que, il y a deux choses, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. C'est traduit comment ? Oui, bon, c'est le pied de l'orgueil. C'est pas seulement une personne extérieure, vous voyez, c'est l'orgueil en nous. L'orgueil, ça nous coupe, hein. Dieu résiste aux orgueilleux, hein. L'orgueil, c'est se confier dans ses propres pensées. Refuser de s'aligner avec la pensée de Dieu. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants, oui, ça c'est tout ce qu'a figuré Emmanuela, que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Parce qu'on peut avoir des méga confrontations et des grosses secousses dans nos vies, hein. Et beaucoup d'entre nous, on est passé par des grosses secousses, et on passe certains encore par des grosses secousses, hein. Bien sûr que ça secoue très fort. Et on doit demeurer. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Demeurez dans mon amour. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, dit Jude. Maintenez-vous. Et ça, c'est pas rien. Et regardez toujours à Jésus et pas aux circonstances et tout et tout. Ah oui, ça c'est le vrai défi. Et comme disait Manu, dès le réveil, il faut se positionner bien correctement pour pas être happé par tout ce qui se passe autour, hein. Donc, oui. Et la vérité, elle nous dit cette vérité, que la bonté de Dieu remplit la terre. Psaume 33, verset 5. La bonté de Dieu, en hébreu, c'est Hesed. C'est une des facettes de la gloire de Dieu, hein. Rappelez-vous, Moïse, fais-moi voir ta gloire, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je fais miséricorde, je fais grâce, etc. C'est une facette énorme de Dieu. Et donc la bonté de Dieu remplit la terre, c'est une vérité. Et c'est tout le temps là. Elle est là, cette bonté. Elle n'est pas à venir. Par contre, Ésaïe 6 nous dit, la terre est remplie de sa gloire. Déjà maintenant, c'est là. Ésaïe 6, 3, c'est nos yeux. C'est nos lunettes qui ne voient pas clair. Mais la terre est remplie de sa gloire maintenant, là. Par contre, Habacuc 2, 14 nous dit, la terre sera au futur remplie de la connaissance de la gloire. Eh ben oui. Ben oui, c'est ça le problème. La gloire, elle est déjà là, la bonté de Dieu, elle est déjà là, mais c'est la connaissance, la révélation de cette gloire qui va venir. Ben oui, ça c'est autre chose. Et alors, Jésus, il a fait quoi? Alors là, j'ai aussi découvert quelque chose d'extraordinaire, je voudrais partager le trésor. Jésus, évidemment qu'il a pratiqué la reconnaissance et les actions de grâce. Évidemment, ben quand même, c'est notre modèle, hein. Alors, quelle est la première fois dans les évangiles où on voit Jésus pratiquer la reconnaissance avec le mot qui dit rendre grâce, être reconnaissant? Vous dites quoi? Dans quelles circonstances, pour la première fois, on voit dans les évangiles Jésus qui rend grâce? Non, non, c'est pas là. Bravo Marguerite, exactement. Oui. Matthieu 15, 36, Jésus prit les 7 pains et les poissons, après avoir remercié, rendu grâce, Eucharistéo, t'as donné Eucharistie, hein. Il les rompit, donna à ses disciples. Vous voyez, donc, il aurait pu être dans le manque, hein, franchement, une grosse foule, plein de besoins, plein de besoins. Très peu de pain et de poisson, il aurait pu dire ça manque, le manque, un gros manque même, hein. Je regarde Elisabeth dans la cuisine, je sais pas comment tu aurais fait, nourrir plein de monde avec juste ça, gros manque, pas du tout. Il s'est pas laissé détourner de ça, il s'est pas laissé ébranler. On remercie Dieu, on est dans la reconnaissance, reconnaissance, communion, abondance. Voilà, la règle, ça, la loi spirituelle s'applique, reconnaissance et communion et abondance. Et donc, effectivement, c'était la grosse abondance, la multiplication. Et vous remarquez que ce n'est pas du tout pour se satisfaire égoïstement, mais c'est pour nourrir la foule, c'est par compassion pour la foule. Donc, c'est des entrailles de compassion qui font que, bah, que y a tout ça, quoi, le processus, reconnaissance, communion et toute la foule, quoi, qui est nourrie. Et en fait, alors, les Béréens parmi vous pourraient vérifier, hein. Il y a des Béréens, je pense, hein, qui vérifient bien ce qu'on dit dans les messages, si c'est correct, si c'est bien, c'est très bien, hein, les Béréens, très, très, très bien. Dans les évangiles, d'après le grec, hein, donc Eucharistéo, on voit en fait 8 fois Jésus rendre grâce. 8 fois. 8, c'est déjà un chiffre spécial, hein. Il remercie son Père. Alors, il y a plusieurs fois, c'est en relation avec la multiplication des pains et des poissons, puisqu'on le voit dans plusieurs évangiles. Après, c'est en relation avec quoi? Est-ce que vous voyez? Comment? Voilà, et oui. Alors, il y a les relations avec la Sainte Seine, et puis aussi, bien sûr, avec la je te loue, Père, de ce que tu as. Je crois que c'est plutôt peut-être la louange, là. En tout cas, et la 8e fois, donc 8 résurrections, hein, c'est juste avant, Jésus leva les yeux en haut, ils ôtèrent la pierre, Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et puis, c'est la résurrection. Donc, on a la multiplication et la résurrection. C'est énorme quand même, hein, la puissance de vie. avec la reconnaissance. Et on a le sévère avertissement de Romains 11, 22. Considérez la bonté de Dieu envers toi. Considère la bonté de Dieu et la sévérité, mais considère la bonté si tu demeures dans cette bonté. Donc l'enjeu, c'est de demeurer dans la bonté et de ne pas faire comme d'autres qui sont sortis de cette bonté et puis ils ont tout perdu, quoi. Donc, oui, c'est tout un défi, ça. Et c'est un peu comme la repentance, c'est une pratique. On marche dans la lumière, on marche dans la repentance. C'est Eric Pécha qui nous enseigne bien ça, c'est un style de vie. Et bien la reconnaissance, pareil, c'est un style de vie. Et c'est pas juste le dimanche matin que tout d'un coup on va dire qu'on est reconnaissant pour plein de choses. C'est dès le lundi matin, quand on retourne au travail et tout, reconnaissance. En fait, et on va peut-être... Alors j'ai prévu quand même des axes d'application pratique. Voilà, peut-être par rapport à la repentance et puis aussi par rapport à la reconnaissance. La repentance par rapport à notre oubli de dire merci. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est dans comment dire, une sorte de déni des choses. Hein. Il y a quand même un verset extraordinaire, Philippiens 4:6, que vous devez connaître, qu'on connaît tous. Ne vous inquiétez de rien. Rien, rien, ce qu'ils appellent rien. Je regarde la trésorière de Josué. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, vous allez l'opposé, rien, toute chose. Donc on ne fait pas rien, vous voyez ce que je veux dire. Ne vous inquiétez de rien, puis on laisse faire les choses, et puis on fait rien. Non, non, non. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la suite c'est par des prières, des supplications, parce que parfois, il y a quelque chose en nous qui... Ah, supplication. Et la suite, attention, des actions de grâce. À pas oublier, parce que parfois, on s'arrête aux prières et supplications, puis terminé. Action de grâce, ça veut dire qu'on remercie déjà d'avance. On sait que la bonté de Dieu fait que... Donc, on remercie d'avance. On remercie d'avance pour toutes les finances qui vont arriver à Josué. Tu vois. On remercie avec des actions de grâce. Et on refuse totalement de s'inquiéter. C'est bien ce programme, quand même. Hein. Et ça implique action de grâce. Donc, on change de lunettes et on prend nos lunettes de lumière tout le temps, du lundi à l'aube jusqu'au dimanche tard quand vous allez au lit. Tchoum, tout le temps, ça va comme programme, lunettes de lumière. Alors, j'avais, par rapport aux axes de prière, parce qu'on va pratiquer là tout de suite, là, il reste quelques minutes. Bah, quand même, première chose dans cet axe de repentance... repentance de notre ingratitude quand même. Hein. Je pense que je ne suis pas la seule avec l'histoire des colis de Noël, mais voilà. Notre oubli de dire merci à Dieu, et bien merci aux autres aussi. Dans la hâte de passer à autre chose, vous voyez, dans le mouvement de la vie, on oublie carrément. Dire merci à Dieu, et aussi merci aux autres. Et puis d'oublier, de nous arrêter pour nous souvenir de tous les bienfaits de Dieu. Alors là, à l'école, c'est facile. 40 ans, on va prendre un temps, là, le vendredi soir de la fête fin juin, pour remercier Dieu. Moi, je pense qu'il faudrait le faire tous les ans, ça. Mais bon, c'est 40 ans, là, on va vraiment, vraiment le faire, là, se souvenir. Mais voilà, nous souvenir, nous poser, nous arrêter, nous souvenir des bienfaits de Dieu. Mon âme, bénie l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que ça nous fait du bien hein, d'être reconnaissant. Il y a quelque chose qui se dilate en nous, quelque chose qui devient joyeux en nous quand on dit merci et à Dieu et aux autres, hein. Je sais pas, vous dites, vous exprimez votre reconnaissance à la caissière parce qu'elle est gentille et puis elle est agréable et elle est, bah, ouais, c'est bien ça quand même. Au lieu de dire, oh, c'est normal, bah non, ça va, vous voyez ce que je veux dire. Dire merci pour le bon pain, pour le boulanger qui passe ses nuits là, la boulange, là, voilà. Je me rappelle, le Seigneur m'avait demandé, après la pandémie, d'offrir un bouquet de fleurs au boulanger parce qu'il avait gardé ouvert le magasin pendant toute la pandémie. Ah oui, oui, mais parfois il faut vraiment que Saint-Esprit nous dise eh oh, tu manifestes ta reconnaissance. Donc un bouquet de fleurs offert au boulanger. Voilà, voilà. Donc dire merci à Dieu et aux autres, c'est un style de vie. Et le Seigneur veut nous changer. Nous, les Français râleurs et plein de revendications. Être dans la reconnaissance, ça commence par l'Église, vous voyez. Imaginez un peuple français reconnaissant. Croyez au miracle? Mais si, c'est possible. Mais ça commence par nous, vous voyez. Ça commence par nous du lundi au dimanche, voilà. Donc, on va peut-être commencer juste se faire un petit temps pour demander pardon. Là, juste chacun de nous avec le Seigneur, c'est intime, c'est perso, vous voyez. Et puis qu'on prenne de nouvelles lunettes. Alors, je peux conduire ce temps, si vous voulez. Hein. Seigneur, ce matin, tu mets en lumière un point essentiel de la communion avec toi. Et c'est de pratiquer la reconnaissance. Alors, Seigneur, on te demande pardon pour tous les oublis de tes bienfaits. Soit les oublis, soit les aveuglements, ou même pas tes bienfaits, on ne les voit pas. Ou alors on se dépêche de les oublier. Et on te dit merci vite fait, ou on ne te dit pas du tout merci pour toi ou aux autres, ces personnes que tu as mises sur notre chemin, qui nous font du bien, et puis on oublie de dire merci. Alors, Seigneur, on te demande vraiment pardon. Vraiment, viens, interpelle-nous, Saint-Esprit, dès que on est dans la râlerie, ou dès qu'on dérape, dès qu'on est... Voilà, qu'on est dans les vieux travers français, là, culturels, ou humains, ou charnels. Interpelle-nous, Seigneur, et réapprends-nous à fonctionner comme un style de vie que toi, tu avais, Jésus, sur terre, quand tu étais incarné, dans la reconnaissance. Dans cette reconnaissance qui nous ouvre la porte de la communion et qui nous donne après accès à l'abondance pour bénir les autres, pas que pour nous, pour bénir les autres. Alors, voilà, Seigneur, on te demande vraiment... Pardon, on a chanté ton sang est absolument suffisant pour nous purifier, nous laver. Alors on accepte cette purification par ton sang. On reçoit ce renouvellement de pensée, cette nouvelle mentalité. Seigneur, on est transformé, métamorphosé par le renouvellement de l'intelligence afin qu'on discerne la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on soit reconnaissant. Et puis bien sûr, après, il y aura la louange, l'adoration, les autres étapes, mais la reconnaissance. Alors merci Jésus de ce profond renouvellement que tu opères. Et c'est un processus, c'est pas que juste maintenant, c'est un processus qu'on veut enclencher. Alors tu es fidèle, Seigneur, tu vas le faire. Et si tu nous interpelles sur tel ou tel oubli de reconnaissance ou tel acte de reconnaissance à poser concrètement, tu nous conduis cette semaine, Seigneur, et dans les temps à venir aussi. Merci Jésus. Merci Jésus. Ça, c'était le temps de repentance. Alors maintenant, par rapport à la reconnaissance, cette fois-ci, ça va ? Alors là, j'avais vraiment sur le cœur quelque chose. On est au mois de mars, 1er mars. 6 ans qu'on n'a plus nos locaux. Hein ? Mars 2020, c'est ça ? Mars 2020. Et je sentais comme une interpellation du Seigneur. Est-ce que nous, Église Josué, de tout notre cœur, avec conviction, on peut dire merci au Seigneur pour ces 6 ans passés hors de nos locaux ? Est-ce qu'on peut dire merci de tout notre cœur ? Pour ce temps de dépouillement, ce qu'annonçait Luc, il prophétisait Luc en août 2020, temps de dépouillement, mais aussi d'enracinement, on l'a vu avec la chaise, enracinement, et élargissement des cœurs, dépouillement, pour être mieux revêtu, mais différemment, élargissement des cœurs, enracinement, et tout ce que le Seigneur a fait en nous et dont on n'a pas du tout conscience. Plus toutes les personnes qui sont rajoutées à notre communauté. Est-ce qu'on peut dire de tout notre cœur, merci ? Pas merci du bout des lèvres, vous voyez, mais vraiment, dans la foi, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ? Vous êtes d'accord ? Luc, je pense que tu es la bonne personne pour dire merci pour tout le monde.
Eh bien, Seigneur, merci pour ce temps, à la fois de dépouillement, que tu nous as visités, que tu nous as touchés, que tu as fait en sorte qu'on garde la foi et l'espérance. Merci, Seigneur, pour tous ces temps. Nous te rendons grâce et nous savons que toutes choses concourent à notre bien. Alors, Seigneur, merci.
Amen. Amen. Alors là, on a dit notre reconnaissance à Dieu. Hein? Et après, il y avait deux autres catégories de reconnaissance que j'avais sur le cœur à deux catégories de personnes. Pouvons-nous dire notre reconnaissance, nous, membres Josué, à, première catégorie de personnes, ceux qui nous ont conduits tout au long de ces 6 années dans ce chemin qu'on n'avait jamais pris. Josué 3-4, hein. Chemin qu'on n'a jamais pris. Ceux qui nous ont conduits, les responsables, les membres du conseil, voilà, il y a eu les Rindel et les Pascasio à un moment donné aussi, hein. Tous ces responsables qui ont fidèlement conduit l'Église dans 6 ans, quand même, spéciaux quand même, vraiment spéciaux. Est-ce qu'on peut le dire merci? Hein? Vous êtes d'accord? Alors, bon, ça je peux le dire parce que j'étais. C'est que depuis la semaine dernière que je suis un petit peu. Là, je suis complètement membre normal de Josué. Seigneur, vraiment. On veut vraiment dire merci pour cette fidélité incroyable, cette persévérance, la foi aussi, l'amour de nos responsables, de tous ces responsables dont tu connais les noms et pendant ces 6 ans qui ont persévéré, conduit, cherché ta pensée, vécu des choses dures aussi, des choses dures, difficiles de membres qui sont partis, tout ça, tout ce qu'ils ont vécu de tellement difficile. Et je te prie vraiment, on veut les bénir. Tu as une reconnaissance spéciale pour ceux qui sont fidèles. Alors on te prie vraiment dans cette 7e année qui commence là, de les bénir, de les élargir, de leur rendre au centuple ce qu'ils ont investi. Et merci Seigneur, oui. Tu sais comment les bénir et les récompenser chacun d'eux, parce que chacun d'eux est différent. Tu sais comment faire, alors on te demande. Tu t'occupes spécialement d'eux, tu les chouchoutes, tu les leur montres spécialement des bonnes choses de toi et tu les conduis plus loin dans la révélation, dans l'intimité, dans la communion, dans justement dans l'abondance aussi de ta présence. Amen. Amen. Et puis, une deuxième catégorie de personnes, ce sera la dernière, hein. J'avais vraiment sur le cœur d'honorer nous toute l'Église Josué, d'honorer ceux qui ont permis que notre autel de louange et adoration corporative soit maintenu dimanche après dimanche, quelles que soient les circonstances et les lieux. Donc, je parle des responsables de groupes de louange, bien sûr, les chantres, les musiciens, les sonoristes, les techniciens, voilà, les projeteurs de paroles, avec tout ce que ça implique de contraintes, hein, et quelles que soient les circonstances et les lieux. Alors, dans les lieux, j'ai listé, mais c'est peut-être pas exhaustif, hein. Les Zooms, il y a eu les Zooms pour commencer, donc technique, hein, oui. Il y a eu, bien sûr, les locaux de l'église voisine. Il y a eu les champs de Werner. Il y a eu les rives de la Loche le long de nos bâtiments. Il y a eu, évidemment, le réfectoire. Je crois qu'il y a eu aussi, sur le verger, là, il y a eu des baptêmes, là, sur le verger. Ah oui, la montagne aussi, voilà. Et partout, t'avais les chantres, les adorateurs, les chantres, les musiciens, qui suivaient avec le matériel et tout, quels que soient les lieux. Eh ben, merci Seigneur, hein, parce que notre hôtel de louange, alors bien sûr, personnel, il a été maintenu, mais corporatif, on a pu dimanche après dimanche continuer à lever notre hôtel. Eh ben, merci Seigneur, hein. Waouh. Ah ben oui. Oui. Alors, on peut les bénir, hein. Enfin, voilà, il y en a plein, je ne vais pas dire les noms, mais voilà. Et mention spéciale pour la technique, quand même, hein, parce que c'est eux qui viennent avant tout le monde, et puis... Ah oui. Oui, c'est vrai. Oui, alors il y en a qui parmi nous qui savent pas ce que c'est, mais il fallait monter la bâche. Enfin voilà, vous verrez les nouveaux ce que ça donne. Mais non, on sera peut-être à l'intérieur. Oui. En tout cas, merci Seigneur. Ah oui, ceux qui préparent la scène et tout ça. Voilà. Donc merci Seigneur pour toutes ces personnes tellement fidèles et c'était tellement précieux pour toi que notre hôtel louange soit maintenu. Et puis Seigneur, dans cet acte de reconnaissance, on accueille cette 7e année. On entre ensemble cette 7e année, en ce temps de Pourim. Mardi, c'est Pourim, hein. Donc, retournement de situation et tout. Mais on veut vraiment y entrer avec un bon état d'esprit. C'est-à-dire, reconnaissance, communion, abondance pour bénir les autres. Mon nouveau passage aussi. Voilà. Merci Seigneur. Ça vous va? Bon, on a beaucoup de pratiques quand même, hein, dans les jours à venir, hein. Ça va? Ça va, les devoirs?